Chers auditeurs, chers auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, nous nous retrouvons encore une fois ce soir autour d'un nouveau thème de résistance. Nous allons rencontrer ce soir Odile qui nous parle de l'aventure qu'elle a vécue avec son mari Jacques Cheminade lors des présidentielles de 1995. Odile, bonjour, on te connaît très bien à Radio Galère et sur Mets de Résistance puisque tu as participé à beaucoup d'émissions, tu es quelqu'un de très engagé qui t'occupe de beaucoup de choses, qui est très investi dans certaines associations, notamment l'Institut Schiller que tu as déjà présenté sur notre antenne et sur cette émission. Et je ne l'avais pas dit à mes auditeurs, mais Odile est connue parce que même si elle a gardé son nom de famille à elle, c'est l'épouse de Jacques Cheminade, quelqu'un qui a eu le courage d'être candidat à la présidentielle à plusieurs reprises. Et la première fois, c'était en 1995. Et Odile, aujourd'hui, va nous raconter cette aventure.
Alors oui, c'est une aventure assez spectaculaire en réalité et qui est d'autant plus intéressante que là nous sommes en 2025, donc c'est les 30 ans de 1995. Et en fait, c'est une élection, ça vaut la peine de voir ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui s'est joué à ce moment-là, en particulier au travers de Jacques Cheminade, parce que si vous voulez, c'est une époque, si on se replace en 95, on est 3 ans après 92, donc Maastricht, la création de l'Union européenne, on est dans tout ce contexte-là. Et donc, il y a des enjeux qui sont en train de se définir, qui sont absolument énormes. Et puis voilà, soudainement, que vous avez cette élection et vous avez un bonhomme qui se présente, qui est Jacques Cheminade. Et je veux juste rappeler que c'était l'époque, parce que je sais que c'est un discours qui a vraiment beaucoup marqué les gens. On se souvient de Philippe Séguin, qui le 5 mai de 92 disait la France en tant qu'État n'aura absolument aucune part dans l'élaboration de la politique monétaire. C'est cela sans doute qu'on appelle la souveraineté partagée, curieux partage qui tendrait à priver la France de toute liberté de décision. Donc ça, c'est un discours donc de Philippe Séguin qui a beaucoup marqué les gens parce qu'il le voyait comme prémonitoire, et c'est vrai que ça l'était, parce qu'encore une fois, on était dans ce contexte où tout ça c'est en train de se passer. Et je pense que c'est très important de voir ça au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit une politique absolument épouvantable en France. Enfin, les gens sont, c'est pas simplement qu'ils sont en colère, ils sont quand même assez désespérés en voyant la politique de Macron. Mais je pense qu'il faut voir, parce qu'il n'y a pas que Macron tout seul. Effectivement, Macron a une responsabilité en tant qu'individu énorme, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à la hauteur de la tâche, ça on l'a bien vu. Mais il faut voir aussi tout l'environnement, c'est-à-dire que c'est tout un réseau, tout un, comment on pourrait dire, un environnement de gens qui, depuis cette époque-là, se sont passés le pouvoir, ont empêché que toute autre voix ne se fasse entendre par tous les moyens possibles, et ça a été Jacques Cheminade est une de ces personnes justement qui a eu un discours qui était totalement prémonitoire et visionnaire par rapport à ce qui se passait. Donc il fallait absolument empêcher qu'il puisse se faire entendre pour que le programme en quelque sorte se mette en place sans anicroche, dirait-on.
D'accord. Et toi et ton mari, vous avez quand même été beaucoup critiqués.
Ah bah ça a été pire que ça, enfin surtout Jacques. Moi, bon, j'étais très très impliquée dans la campagne, notamment en m'occupant de la presse. Alors à ce propos, je peux d'ailleurs raconter une anecdote, parce qu'on avait pour le local de campagne, on avait un tout petit local mais vraiment minuscule qui était à côté de la place de la République, et donc on avait prévenu en anticipation question de la du dépôt des parrainages auprès du Conseil constitutionnel, on avait prévenu la presse et on avait dit, bah vous savez, on est Jacques Cheminade est en train de rechercher les parrainages. Là, on a les 500 signatures, donc Jacques Cheminade sera candidat. Si vous voulez, on peut répondre à vos questions.
À l'époque, c'était 500 signatures. Hein, ça a changé aujourd'hui pour nos auditeurs.
Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours. C'est les conditions, on pourra dire, enfin, ils ont mis toutes sortes de difficultés, mais ça, on pourra y revenir.
Voilà, il me semble qu'il y a quand même des choses qui ont changé.
Oui, parce que en fait, maintenant, au fur et à mesure que les maires signent pour un candidat, leur nom est divulgué immédiatement.
Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais,
voilà. Donc, pour beaucoup de maires, il y a beaucoup de maires qui sont frileux. Alors, ça peut jouer aussi en sens inverse, d'ailleurs, dans certains cas. Mais c'est sûr que ça a freiné beaucoup, beaucoup de maires. Il y a eu d'ailleurs une baisse du nombre de maires qui ont parrainé les candidats. Hein, ça, c'est absolument clair. Donc, l'effet a été ressenti très, très clairement. Mais je vais revenir sur cette petite anecdote sur la presse, parce qu'on avait prévenu toute la presse. Et donc, les gens qu'on appelait, ils nous répondaient mal, toujours avec ce mépris et ce côté goguenard, et surtout méprisant d'ailleurs, des gens qui sont en place, n'est-ce pas, ou qui servent le pouvoir qui est en place. Donc la presse sert ce pouvoir qui est en place. Ils disaient, ouais, mais Cheminade, c'est n'importe quoi. Puis quand le dépôt, on avait donné rendez-vous pour le dépôt des signatures, et on avait dit bah oui, il va venir et il va présenter ses signatures. Donc on avait certains qui nous avaient dit mais non, c'est n'importe quoi, c'est du papier journal, c'est tout ça, c'est pour se faire parler de lui, etc., etc. Bref, il y a eu le dépôt, le Conseil constitutionnel, après le temps d'examiner tous les parrainages, a validé la candidature, et là, dans notre petit local où le téléphone ne sonnait jamais, soudainement, les téléphones, on avait deux ou trois téléphones, ils étaient complètement pris
d'assaut.
On raccrochait tout de suite un appel qui venait et sans discontinuer. Parce que voilà, il y avait ce candidat qui se pointait là, qui n'était pas censé être là. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en France, quand même, il y a une constitution dans laquelle il est écrit tout citoyen majeur qui réunit les conditions dictées par la loi, et ce sont des conditions sévères, c'est pas n'importe quoi, peut se présenter comme à l'élection présidentielle. Et là, c'était la démonstration tout de suite, immédiate, que non, en réalité, on n'est pas, tout le citoyen n'est pas censé se présenter à l'élection présidentielle en France, que ça c'est sur le papier, que c'est beau, c'est de la belle phraséologie, il n'y a pas de problème, c'est de la belle rhétorique, mais quand on l'applique, alors là, c'est plus du tout la même chose, là, en revanche.
D'accord. Est-ce que vous avez eu des menaces ?
Ah, on a eu des choses assez violentes, hein, je dois dire. Déjà, la façon dont la presse a présenté Jacques Cheminade, ça a créé un environnement qui, effectivement, on a vu pas mal de gens assez louches se pointer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des problèmes, qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de ce type de problème, mais il y avait un environnement, en tout cas, qui se prêtait à ce que des gens se comportent de manière pas normale, dirais-je, avec Jacques.
Oui, c'est-à-dire, quand tu veux dire pas normal ?
Oh ben d'un côté très très injure, ben des injures, des propos méprisants par exemple, qui n'ont pas lieu d'être dans une campagne présidentielle. Enfin bon, je dis ça, c'est un petit peu là, comment dire, on sait que souvent les campagnes présidentielles, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont assez comment dire, je veux pas dire violentes, mais enfin c'est voilà quoi, il y a des échanges assez.
D'accord.
Direct.
Oui, il y a des enjeux tellement importants que. Donc, on va en revenir à votre aventure. Comment ça vous est venu avec Jacques d'avoir envie de vous présenter, enfin, d'avoir envie de faire en sorte que Jacques puisse se présenter ?
Bah, c'était, je ne le mettrais pas au niveau de l'envie, même si c'était bien évidemment, il fallait vouloir le faire, mais c'était surtout que la situation apparaissait telle, les enjeux se dessinaient déjà tellement clairement à cette époque-là. Pour quiconque s'intéressait vraiment à la politique, on voyait qu'on était dans une période où se préparaient des changements vraiment en profondeur. Bon, ça a été notamment toute la question de l'Union européenne, à laquelle nous nous sommes opposés, non pas, pas parce qu'on était contre l'Europe ou quoi que ce soit, c'était pas du tout la question, c'était parce que ça voulait dire la dépossession de la souveraineté, ça voulait dire que le pouvoir était transféré en fait à une entité qui n'était plus redevable devant les citoyens et que les citoyens perdaient de facto leur souveraineté. C'était ça que ça voulait dire. On aurait pu envisager, par exemple, tel que ça avait commencé à se dessiner, une Europe où il y aurait effectivement, ça s'est fait d'ailleurs dans un premier temps, il y a eu une Europe de où on commençait à faire des grands projets en commun. C'est le cas avec Airbus, ça a été le cas avec Concorde, dans une certaine mesure, ça a été le cas aussi avec l'Agence spatiale européenne, bien que je pense que ça, je connais pas j'ai pas les dates en précises en tête, mais il y avait cette idée de on fait les choses en commun. Et faire les choses en commun au niveau européen, mais ça a un sens, évidemment qu'on va faire des choses en commun, évidemment qu'on a une histoire commune dans l'Europe, et c'est bien qu'on le fasse, mais pas au prix de l'abandon de la souveraineté. Ça, c'est totalement différent. Alors, on peut envisager qu'il y ait des délégations de souveraineté dans certains cas bien précis. Je pense par exemple que l'Agence spatiale européenne, bah, c'est typiquement le genre de choses, à un certain moment vous devez avoir dans ce genre d'aventure qui sont des choses quand même qui est sur le long terme, où on est dans une aventure, on fait face à l'inconnu, on découvre des choses. Donc là vous pouvez envisager d'avoir des délégations de souveraineté très encadrées, mais encore une fois la question de remettre sa souveraineté, ça, pas question. Et ça, nous, on s'est mobilisé là-dessus, parce que ce qui était clair, et on l'a vu très rapidement, et Jacques l'a dit d'ailleurs de manière très claire, c'est qu'en réalité, on remettait le pouvoir à... c'était le pouvoir des banquiers, c'était le pouvoir de la finance. Et c'était... on remettait les clés en fait, de la France et des autres pays à des entités qui étaient liées à ce monde de la finance, qui étaient déjà dans une logique de spéculation à tout va. On était déjà avec...
Je me souviens qu'à l'époque, il y a eu des attaques sur le franc en 1992, en 1993, dans le but justement d'empêcher la France de rentrer dans le processus d'intégration monétaire, non ?
Oui, il y a eu des attaques.
La lire italienne aussi.
Oui, alors ça, j'ai pas ça précisément en tête.
Mais c'est cette époque-là, quoi.
Oui, c'est toute cette époque-là, mais je voudrais vous lire le début parce que ça.
Il y avait des grands banquiers comme Georges Soros qui manipulaient sur les marchés monétaires et financiers. Il y avait la spéculation monétaire très et financière très forte pour empêcher pour permettre de gagner de l'argent à court terme sur les exportations diminuant la valeur du franc au péril justement du processus d'intégration monétaire puisqu'on devait respecter les critères de Maastricht à l'époque.
Bah ça a été après. Enfin,
on devait respecter non pas les critères de Maastricht, pas encore les critères du SME, du serpent monétaire européen.
Oui, alors le serpent monétaire européen, c'était quelque chose qui n'était pas si mal que ça, soit dit en passant. Ouais. Et tout ça, ça a été flanqué à la poubelle. Mais je voudrais, en fait, vous lire le début de cette profession de foi de...
Mais oui, merci. D'abord, Odile, oui. Juste pour poser la question, tous nos auditeurs ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est une profession de foi? On le sait pour les députés, les candidats à la députation ou à la municipalité, mais on a du mal à savoir quelle ampleur ça peut représenter pour un candidat à la présidentielle.
Ah oui, ben ça c'est une bonne question d'ailleurs. C'est vrai. Parce que déjà, bon, le terme profession de foi, franchement, c'est pas, c'est bon,
ça fait un peu religieux.
Ça fait un peu bizarre. Ouais. Il faut bien reconnaître. Alors, ce qu'on appelle la profession de foi, en fait, c'est la circulaire qui est envoyée à tous les électeurs que vous recevez par la poste et qui en fait résume, donne les grands axes de ce que le candidat veut dire à la population. Et donc et voilà, qu'est-ce qu'il entend faire, quelle orientation il veut donner. Alors aujourd'hui, les professions de foi tendent à être de plus en plus des catalogues de petites mesurettes. Dans le cas de Jacques, c'était vraiment de donner une orientation et d'expliquer, de faire la pédagogie de ce qui était en train de se produire et pourquoi il fallait amener une autre orientation. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs, je vais vous lire les deux premiers paragraphes et vous verrez ce que j'entends par là. Donc, ça commençait de cette manière. L'on tente de nous faire croire qu'il existe une entité suprême appelée marché, à laquelle il faudrait se soumettre car ce serait l'état naturel de la société. Rien n'est plus faux. Les marchés ont un visage. C'est celui de l'oligarchie, celle de la City de Londres et de Wall Street, de la Réserve fédérale américaine et du Fonds monétaire international, le FMI. Les relais de leur politique sont chez nous la direction du Trésor, la Banque de France et le petit monde incestueux des cabinets ministériels et des plumitifs de cours attitrés. Éliminer le cancer financier et mettre en œuvre un nouveau plan Marshall Ouest, Est et Nord-Sud, réorientant les flux financiers vers les infrastructures et la production. Cette démarche suppose que l'État reprenne le contrôle du crédit et de l'émission de monnaie. Une Europe où les taux de chômage et d'endettement croissent en même temps, où les taux d'intérêt réels augmentent plus rapidement que la productivité et où les revenus du capital sont détaxés et ceux du travail écrasés, est une Europe qui va droit dans le mur. Voilà, donc ça commence à être comme ça. Ça c'était en 1995. Donc regardez ce que Jacques Cheminade disait en 95 et regardez ce qui se passe aujourd'hui et vous comprendrez pourquoi c'était l'homme à abattre, tout simplement. Et donc des moyens absolument assez incroyables ont été déployés pour l'écraser, alors qu'en réalité, bon, c'est le candidat qui a fait les dépenses de campagne les plus faibles. Hein, ses dépenses de campagne à l'époque, c'était 4,7 millions francs à l'époque. Hein.
Une petite question quand même. Ce que tu dis, c'est vrai. Et quand même, à cette époque-là, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres candidats qui était quand même proche plus ou moins des idées de Jacques, notamment en matière de souveraineté économique et monétaire, ou de souveraineté tout court. Là, je vais peut-être te vexer, mais je pense par exemple à l'extrême droite de l'époque.
Alors,
est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient le même genre d'idées? Parce que, par exemple, récemment, Marine Le Pen a beaucoup évoqué ces idées-là, d'un retour à la souveraineté de l'État, voire même certains ont parlé de la fin de l'euro.
Oui, mais elles sont le vent tourné. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans, effectivement, quand même, que les choses... donc, il y a un certain nombre de gens qui s'engouffrent dans la brèche. Parce qu'ils voient bien que c'est là où le bât blesse.
À l'époque, Jacques Cheminade était le seul candidat à déjà entrevoir les dangers de l'Union européenne et d'un transfert de souveraineté de la France vers les institutions de l'Union européenne, notamment en matière économique, monétaire.
Lui, ce qu'il voyait surtout, c'était encore une fois cette mainmise des intérêts financiers et l'abandon de la souveraineté de la France, le manque d'ambition politique, le manque de projets positifs. C'est-à-dire, on ne peut pas résumer un projet politique à dire, je ne sais pas, enfin je dis ça comme ça parce que maintenant j'ai plus en tête de manière très précise les programmes des autres candidats il y a 30 ans de ça, je dois dire, mais on ne peut pas résumer un programme à dire, je ne sais pas, par exemple, on va payer la dette. Ah, ça c'est pas un programme, ça. Ça c'est un truc de comptable. C'est différent. C'est parce qu'un président de la République doit dire. Un président de la République, il définit des orientations. Il a une vision pour son pays et pour la population. Donc ça veut dire est-ce que quelle architecture économique on met en place, comment on la met au service de la population, c'est ça que ça veut dire.
Très bien. Donc voilà. Et alors, d'après ce que j'ai compris, Jacques Cheminade, c'était quand même pas n'importe qui, puisque à la base, c'est quand même un haut fonctionnaire.
Tout à fait.
Dans quelle administration, si je peux...
Il a été à la, il a été au ministère de l'économie et des finances et dans le service qui représentait la France à l'extérieur. Il a été en poste notamment aux États-Unis. Et c'était, je cherche le mot parce que maintenant ça n'existe plus. Je crois que c'était la direction des relations extérieures, mais je dis ça sous toute réserve.
D'accord, ok. Très bien. Donc en fait, bon, pour se présenter en tant que président de la République, aux élections, en général, il faut soit, c'est une constatation que je fais, hein, être très politisé, avec une idéologie souvent forte, surtout à l'époque, soit peut-être avoir déjà mis plus ou moins sa main à la pâte dans les politiques publiques, même si c'est en tant que fonctionnaire. C'est le constat que je fais. Hein. C'est juste au cas où un jour l'élection présidentielle s'ouvrait davantage, on ne sait jamais, avec des mesures nouvelles qui permettent à davantage de gens de se présenter, il faut avoir un bagage quand même.
Oui, il faut avoir un bagage, certes, mais encore une fois, je pense que la chose, c'est qu'il faut surtout avoir un sens de ce qu'on veut pour son pays. Je pense que, par exemple, le général de Gaulle, que je sache, il n'avait pas un bagage, c'était un militaire. Bon, donc a priori...
À l'époque, comme beaucoup, il avait quand même fait Saint-Cyr, il avait un bagage intellectuel quand même très, alors, très
voilà.
Développé.
Oui, voilà, c'est... Bien évidemment. Mais je pense quand même que, si on regarde par exemple la composition de l'Assemblée nationale, bon, aujourd'hui, il y a un vrai problème, parce que c'est une Assemblée nationale qui est constituée en grande partie soit de métiers dans les... de fonctionnaires, de métiers dans les services, d'avocats, voilà. Alors c'est
sans faire de la politique bête et méchante, avec Jean-Luc Mélenchon, ça s'est quand même ouvert.
Oui, un petit peu, mais on est très loin du compte. Il n'y a pas d'ouvriers que je sache, ou très très peu. Je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, si je ne me trompe, ou peut-être un peu plus.
Un petit peu plus depuis Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est moins des ouvriers qui sont plus rares aujourd'hui, et qui souvent sont plus représentés par le Parti communiste ou d'autres partis d'extrême gauche, notamment l'Assemblée nationale, chez Jean-Luc Mélenchon, chez la France insoumise et les suivants, et les mouvements politiques qui en ont découlé, c'est surtout des gens qui sont issus du secteur tertiaire, souvent, hein, davantage.
C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, très bien, mais...
Ce qu'on appellerait le nouveau prolétariat, hein, juste pour... excusez-moi l'expression, mais manque, c'est pour rigoler un peu.
Ouais, non, mais manque vraiment une représentation de ce qu'on appelle la France profonde, c'est moi ce que j'appelle la vraie France, des gens qui sont dans toutes sortes de métiers, qui sont
aujourd'hui, on sait vraiment plus vraiment comment définir la France profonde. Il y a 50 ans, on la définissait par le monde extrêmement rural. Aujourd'hui, comment tu pourrais vraiment définir la France profonde?
Bah, celle quand on va par exemple dans les petites villes de, je sais pas, 10, 20 000 habitants, on voit une France qui a un visage très différent de la ville, des grandes métropoles, où les grandes métropoles, bah, c'est souvent ce côté très de gens qui sont effectivement dans les dans des secteurs non productifs, tandis que dans les petites villes, on trouve encore beaucoup de gens qui sont dans les secteurs productifs. Et c'est très important ça, parce que si on travaille évidemment, si on est agriculteur, mais il n'y a pas que agriculteur, on peut être artisan, on peut être boulanger, on peut être boucher, on peut fabriquer. J'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite en tête, mais il y a plein de métiers où les gens fabriquent des choses. On peut être luthier, par exemple. On peut être par exemple.
Des métiers artisanaux.
Oui, des métiers artisanaux où on produit des choses. Et ça veut dire qu'il y a un rapport avec le réel. Il y a un rapport avec, pas simplement avec la matière, mais comment son esprit
Il y a un rapport avec la création de valeur.
C'est exactement ça. Voilà.
C'est l'économie.
C'est l'économie. On crée des vraies richesses. On crée de la vraie. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand vous avez des gens qui sont dans des secteurs où il n'y a pas de création de richesses réelles, et quand ça prédomine, quand la proportion est majoritaire, eh ben oui, ça pose un problème.
Il n'y a plus de politique.
Il y a une incapacité surtout à comprendre le monde physique, le monde réel. Ils ne comprennent pas. Voilà, c'est parce que ça passe pas.
Parce que c'est pas une réalité palpable qui est vécue.
Exactement. Exactement. Et là, effectivement, en France, il y a ce problème-là, d'une part. Il y a le problème des réseaux.
Ce problème-là est dans les cités ou dans les cités en périphérie des grandes villes. On le retrouve également dans les communes qui sont encore un peu retardées, c'est-à-dire qu'il manque d'infrastructures ou mal immergées dans un réseau de communication dense avec des villes plus importantes à côté, des pans entiers du territoire français qui sont encore aux oubliettes, même si on n'en est plus à la France rurale d'il y a 100 ans.
Oui. Dans les cités, dans les banlieues, il y a aussi un autre problème. C'est que là, pour le coup, l'économie, dans beaucoup d'endroits, c'est l'économie de la drogue.
Oui, aussi.
Et ça, faut le dire et le redire. C'est-à-dire que la France devient un narco-État. Hein, je ne suis pas la seule à le dire. Le constat est fait de plus en plus ouvertement. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons publié un petit opuscule sur cette question-là, sur la question de...
À l'époque de la présidentielle ?
On en a parlé à l'époque l'époque de la présidentielle. D'ailleurs, ça a toujours été un thème que nous avons abordé.
Parce que ça, il faut bien l'expliquer à nos éditeurs, c'est que Jacques Cheminade n'a pas fait qu'une seule présidentielle.
Oui, tout à fait. Il a fait trois présidentielles.
Alors, 1995, c'est Jacques Chirac qui a gagné.
Oui, 2012.
Là, c'est encore... ça, c'était 2012, c'est Nicolas Sarkozy.
Ça, c'est ça, et 2017.
Et 2017, donc Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, trois
fois. Il a rencontré Emmanuel Macron.
Il a rencontré Emmanuel Macron, effectivement. Que dire de ça? C'est Emmanuel Macron est connu pour être quelqu'un qui est très... il n'était pas président à cette époque-là. Il était en charge du... Il était chef de cabinet de François Hollande. Donc c'était dans un contexte un petit peu différent. Pour moi, c'est pas quelque chose de très intéressant, parce que je pense plus.
Oui. Je pense. C'est une anecdote.
Oui, c'est une anecdote. Oui. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir la façon dont il a été traité en 95, parce que c'est quand même le seul candidat dont le compte de campagne a été rejeté, alors que c'est celui qui avait de très très loin les dépenses les plus petites, les plus faibles, et alors que c'est l'année où de notoriété publique les comptes et de Chirac et de Balladur étaient hors normes. Ils auraient dû être rejetés parce qu'ils avaient fait trop de dépenses. Ils avaient dépassé de manière très importante le plafond autorisé des dépenses de campagne. D'une part. D'autre part, il y a eu toutes sortes de... Bon, les auditeurs s'en souviendront peut-être, mais des soupçons sur le financement de la campagne et de Chirac, et de Balladur, hein, notamment Balladur avec des comptes qui étaient ficelés n'importe comment. Parce que ces gens, si vous voulez, à partir du moment où ils se pensent vraiment dans le cercle du pouvoir, ils pensent que de toute façon, ils peuvent faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait d'une certaine manière. Et ce qui s'est passé...
Ils se croient réellement déjà au-dessus des partis, pour reprendre une phrase de Général de Gaulle.
Ouais, et puis ils se croient au-dessus de la loi, même, tout simplement. Hein. Ils se croient au-dessus des commandes des mortels, d'une certaine manière. Et donc, c'est à cette époque-là, donc, les deux comptes de campagne ont été validés par le Conseil constitutionnel, par Roland Dumas. C'est-à-dire qu'ils ont reficelé, retrafiqué, refait calculer tous les comptes pour les faire rentrer, pour essayer de faire en sorte que ça déborde pas trop. Et ils ont validé tout ça en réalité, alors que Cheminade, non seulement ses comptes ont été invalidés sur un prétexte totalement fallacieux qui a été inventé pour la circonstance, mais en plus il a été poursuivi pendant 17 ans. Et il faut quand même savoir qu'il y a eu une hypothèque sur son appartement, c'est-à-dire qu'on a réclamé, alors que la loi dit explicitement que certes un candidat ne doit pas s'enrichir quand il se présente à une élection, quelle que soit l'élection, mais il ne doit pas s'appauvrir non plus. Dans le cas de Cheminade, ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on lui a dit, puisque vous avez, et il faut savoir, je fais une petite parenthèse, c'est que là, les lois sur, il y avait eu des changements et donc la loi sur le financement des campagnes présidentielles, il y avait des flous. Donc rien ne disait que si un candidat était invalidé, qu'on devait lui réclamer le remboursement de l'avance forfaitaire des 1 million de francs à l'époque. Hein. Rien ne disait ça. Mais pour le coup, là, ils ont décidé d'exiger de Jacques Cheminade qu'il rembourse personnellement les 1 million d'avances forfaitaires qu'il n'avait pas perçu personnellement puisque c'était pour sa campagne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Cheminade, nous avons vu des huissiers débarquer chez nous pour évaluer ce que nous avions dans notre petit appartement. Nous avons eu notre appartement qui a été hypothéqué. N'est-ce pas, pour que l'État puisse prendre sur l'appartement. Et il a fallu attendre, en fait, parce que comme il y avait toutes sortes de... C'était un cas totalement inédit, donc ils ont dû créer, en fait, toutes sortes de... ficeler des choses pour essayer de, comment dire, d'aboutir à ce à quoi ils voulaient aboutir. Et en fait, le remboursement de ce 1 million d'avances forfaitaires a été fait sur la campagne de 2012 lorsque M. Valls était donc ministre de l'Intérieur, vu que tout ça, ça passe par c'est géré en fait par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est bien, bel et bien une vendetta contre un candidat qui était un candidat le plus petit, qui n'avait strictement aucune chance de gagner, on est bien d'accord, mais qui était en train dire ce qu'il ne fallait pas dire, il était en train de dire le roi est nu, et ça se voit. Voyez, c'est ça qui est important. Et donc, le fait est, il faut bien comprendre une chose, c'est que si ça a pu se produire il y a 30 ans de ça, eh bien, quand vous faites ça une fois, quand dans un pays vous acceptez que ce genre de pratique se fasse, ça crée déjà, bon, les idées de Cheminade, il faut quand même savoir qu'il a eu moitié moins de temps que les autres candidats. Bon, ça a été reconnu par le CSA qui a fait un petit rappel à l'ordre très exactement 3 ou 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc ça voulait dire qu'il n'y avait strictement aucun moyen de rattraper le temps perdu. Donc si vous voulez, quand vous avez dans les instances suprêmes d'un État des gens qui ont cette habitude et qui prennent qui font ce genre de choses, ça n'est pas sans conséquences. Alors ça a des conséquences politiques parce qu'effectivement les idées que portait Jacques Cheminade ont été étouffées dans les trois campagnes qu'il a faites, bien évidemment, et parce que on voit que cet État, la France, le gouvernement français, enfin les structures, c'est pas le gouvernement, mais c'est, comment on pourrait dire, les administrations acceptent, ont joué le jeu de chercher à éliminer quelqu'un. Et ça, vous le faites pas, ça laisse toujours des traces, ces choses-là.
Est-ce que vous avez eu des menaces de mort ?
Non, non.
Physique ? Verbal ?
Non, mais comme je le disais tout à l'heure, on a vu des pratiques extrêmement peu honorables, ça effectivement, et ça a été assez violent dans le ton, dans la façon de s'adresser à Jacques Cheminade, où dans un premier temps, il y a une certaine curiosité, là je parle de 95, sur sa campagne, et très vite, parce que les journalistes ne savaient pas, ils n'avaient pas le narratif, ils ne savaient pas ce qu'il fallait dire. Donc c'était relativement ouvert. Puis au bout de 2 ou 3 jours, le narratif est sorti. Et donc là, il y a eu toutes sortes de choses, candidat d'extrême droite, antisémite, on ne sait pas d'où il tire son argent, candidat de Saddam Hussein, candidat de je ne sais pas trop qui, agent de KGB, que sais-je. Enfin, on a pratiquement tout entendu. Mais évidemment, rien sur le programme.
Très bien. On va mettre un petit peu de musique pour détendre un peu l'atmosphère, Odile. Tu avais choisi, je crois, un quatuor.
Alors, c'est un quatuor de Mozart. Alors, je ne sais pas s'il détendra l'atmosphère, là, pour le coup, parce qu'il est très, c'est très très beau, c'est le quatuor de dissonance. Et c'était le quatuor qu'affectionne beaucoup Jacques Cheminade et qu'il avait en tête, justement, par rapport à cette campagne de 1995. Donc, c'est lié aussi historiquement à cette campagne.
Merci. Donc, le quatuor
des dissonances de Mozart.
Des dissonances de Mozart.
tout le temps, voilà. Odile, on reprend, c'est très beau, cette musique.
Voilà. Je pense surtout que les dissonances de Mozart savait les résoudre à un niveau supérieur. Par contre, les dissonances de la politique française, elles n'ont toujours pas été résolues.
Il faudrait que Mozart revienne.
Oui, voilà, il va falloir un Mozart de la politique.
Un virtuose de la politique, on va dire. Donc, voilà. On va reprendre un petit peu, parce que c'est passionnant ce sujet des élections présidentielles, parce que je connais personne d'autre dans mon entourage qui a fait les élections présidentielles comme toi. Alors, j'ai plein de questions bêtes et méchantes à te poser. Mais comme je sais que la majorité de mes auditeurs, de nos auditeurs, eux aussi se posent les mêmes questions que moi, je vais quand même les poser. Alors, la première que je voulais te poser, Odile, c'était... Qu'est-ce que ça fait, enfin, quand tu vous êtes investi en politique avec Jacques Cheminade et que vous êtes présenté aux élections présidentielles, j'ai dit vous parce que vous étiez deux et comme tu le disais, vous partagez le travail en deux et tu as partagé tous ces durs moments avec lui. C'est un travail à deux et sachant que après, lorsque le président de la République est élu, dans mon souvenir, on n'a jamais eu de président de la République célibataire, à part peut-être François Hollande qui l'a été pas longtemps, mais pas longtemps du tout. Il a vécu une autre compagne. Donc, il me semble que le rôle et la présence d'une première dame me paraît être indispensable aux Français sur la fonction présidentielle. Qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Alors, tout d'abord, quand même, on n'était pas que Jacques et moi. Il y avait toute une équipe.
Oui, c'est ce que tu disais, comme tout à l'heure, quand tu disais il y a des gens qui se croient au-dessus des humains, en général, c'est plutôt des équipes qui se montent la tête collectivement, quoi.
Oui, enfin, là, pour la campagne, nous, on avait une équipe de militants, de gens qui étaient vraiment extrêmement engagés, extrêmement dévoués, et qui ont fait en sorte que cette campagne puisse se produire, y compris d'ailleurs pour la recherche des parrainages, hein, parce que sans ça, ça n'aurait jamais pu se faire. Après, bon, c'est sûr que en tant qu'épouse de, enfin, on n'était pas encore mariés à l'époque, entre parenthèses, mais en tant que hypothétique première dame, ça crée quelque chose d'un petit peu spécial. Bon, même moi, si j'étais le nez dans le guidon, parce qu'on s'occupait beaucoup de la presse en particulier, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai eu des interviews sur ça c'était pendant la campagne. Après, quand on roule de la première dame, alors vaste sujet, parce que c'est...
Est-ce que tu y avais réfléchi au préalable ou est-ce que prise dans le tourbillon, t'as pas eu le temps d'y penser?
Oui, c'est un petit peu ça, d'une certaine manière. Enfin, on y pense quand même, et par la force des choses, parce que quand on se déplace ensemble, forcément, on est la femme du candidat. Mais pour le rôle d'une première dame, alors, je pense qu'elle a un rôle à jouer, en réalité, qui reste à définir. C'est vrai que, généralement, les premières dames sont souvent cantonnées à des questions, humanitaires, des choses comme ça. D'un côté, je suis partagée, parce que c'est vrai que le candidat à l'élection présidentielle, c'est l'homme qui se présente devant la nation. Et c'est lui qui se présente, et c'est lui que les Français élisent.
Tout à fait. Quelqu'un d'autre. Le rôle, voire même la présence d'une conjointe ou d'un conjoint, ça s'est encore jamais présenté, mais ça pourrait arriver, du président de la République, n'est absolument pas dans la Constitution.
Donc là, il y a effectivement quelque chose. Bon, peut-être il faut y réfléchir, parce que c'est évident que le conjoint d'un président, forcément, il a une influence sur le président.
Oui. En même temps, on peut quand même se poser la question, à notre époque, est-ce que ce serait pertinent, sachant qu'à notre époque, les mœurs ont un peu évolué et qu'on conçoit tout à fait une vie célibataire, que ce soit pour l'homme ou la femme.
qui soit aussi valable et valide et validé socialement qu'une vie d'homme ou de femme en couple ou mariée.
Oui, alors là d'ailleurs tu me poses une colle parce que je ne sais plus ce qui est prévu en termes de droit.
Je crois que c'est pas du tout dans la Constitution française. Hein. Qui réglemente l'organisation des pouvoirs publics, qui régit l'organisation des pouvoirs publics, pardon, il n'y a rien qui mentionne l'obligation d'avoir un conjoint.
Marié ou pas. Il faut vérifier. J'ai un doute là-dessus. Mais je ne sais pas y répondre. Mais en tout cas, pour revenir, qu'est-ce que pourrait être le rôle de la première dame dans le cas présent? Effectivement, il y a de toute façon l'épouse ou le conjoint ou la conjointe, il doit y avoir quelque part une possibilité d'expression de conseil. Moi, je pense que effectivement, la façon dont ça se fait de manière un petit peu implicite, faute de mieux. C'est peut-être c'est peut-être pas plus mal, mais bon, j'avoue, je suis un petit peu embêtée là pour répondre sur cette question. J'ai pas
d'accord.
J'ai réfléchi.
Ok, parce que tu savais que en se présentant, bon, même si tu pensais que tu savais que Jacques n'allait peut-être pas faire mieux que Jacques Chirac ou d'autres politiques qui n'en étaient pas à leur première présidentielle et qui avaient pris leurs arrières, préparé leurs arrières, tu savais que il y avait cette question de ta fonction une fois que, si jamais chaque cheminade gagnait.
Oui, si jamais.
Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, concrètement? Est-ce que tu y as réfléchi? Si jamais il avait été élu.
Si jamais il avait été élu, ma foi, je pense que moi j'aurais essayé vraiment de jouer un rôle sur certaines questions qui peuvent être très nécessaires. Qui est tout ce qui est, par exemple, la question de la culture, par exemple, ou la question de l'éducation. Donc bon, on retombe un petit peu dans ce qui, de toute façon, est entre guillemets les prérogatives des premières dames à l'heure actuelle, en réalité. Mais en tout cas, d'être actif d'une certaine manière, d'essayer d'être l'écho. En fait, dans certains domaines, d'une politique qui est poussée par son mari, tout en sachant, encore une fois, que la personne qui est élue par les Français, c'est, si ça avait été Jacques, ça aurait été Jacques, ou voilà.
D'accord. Bon. Et dans son programme, qu'est-ce qu'il avait d'autre, Jacques?
Il avait en fait un...
Mis à part ce qu'on va requalifier quand même sur le plan économique, à l'époque c'était fondamental et ça l'est toujours aujourd'hui, un réencastrement économique, monétaire et financier.
Oui, alors il y avait beaucoup de choses dans son programme. Il y avait tout un programme, par exemple, pour l'agriculture. Il avait fait en fait des petits livrets sur un certain nombre de domaines particulièrement importants. Il y avait l'agriculture, il y avait la question du trafic de drogue qui se posait déjà à cette époque-là.
De manière beaucoup moins cruciale qu'aujourd'hui.
Absolument, mais qui pointait déjà son nez. Et si on avait fait ce qu'il fallait à cette époque-là, on n'en serait pas à la situation où on est aujourd'hui, où on a des gens qui sont abattus carrément dans la rue, hein, quand même. On en est là. Donc il y avait la question de la drogue, il y avait la question de l'éducation, il y avait les grands domaines, on pourra dire, qui intéressent les gens, la santé forcément, et aussi beaucoup bien sûr la question de la recherche, et aussi le sujet qui a permis aux médias malveillants de lancer leur boule puante, qui était la question de l'espace. Parce que ce qui était assez extraordinaire, c'est que quand Jacques a fait campagne, la même année, il y avait donc dans un des grands magazines scientifiques français, dont je n'ai plus le nom maintenant en tête, il y avait tout un article, tout un numéro consacré en fait à l'exploration, une prochaine exploration de Mars. En même temps que Jacques Cheminade, on se moquait de lui en disant que c'était l'homme des petits bonshommes, des petits bonhommes verts, des martiens, et qui voulait aller visiter les extraterrestres. Bon, je caricature un peu, mais on n'en était vraiment pas loin. Or, ce que Jacques avait dit, c'était toute la question de la recherche scientifique, et que l'exploration spatiale était, en cette aube, cette fin du XXe siècle et aube du XXIe siècle à venir, que ce serait la grande aventure du futur, et qu'il fallait que la France soit pionnière là-dedans. Donc ça voulait dire, notamment avec l'Europe spatiale européenne, dans laquelle, soit dit en passant, la France est toujours, que je sache, un des plus grands, comment dire, une de celles qui donne le plus d'argent. Donc ça voulait dire une politique ambitieuse, mais ça voulait dire une politique ambitieuse pour la France, mais une politique ambitieuse avec d'autres pays européens, mais aussi avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis. Excusez-moi, on ne parlait pas encore de la Chine à cette époque-là. Aujourd'hui, ce serait bien évidemment avec la Chine, mais aussi, par exemple, aujourd'hui, il faut savoir que vous avez en Afrique, là, il y a 15 jours de ça, l'Agence spatiale africaine vient d'être lancée officiellement au Caire. Donc, c'est une grande percée. Et donc, si vous voulez, toute cette question de l'espace dont on se moquait vis-à-vis de Jacques Cheminade en 1995, ben il se trouve qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est effectivement une des questions clés. C'est là-dessus, c'est une des questions sur lesquelles va se jouer le futur des pays. Est-ce qu'on est capable d'avoir une politique spatiale ambitieuse qui combine, parce que l'espace, ça recoupe énormément de choses, hein. C'est l'exploration, c'est de comprendre comment fonctionne le monde. Ça, c'est tout ce qu'on peut voir avec le télescope Hubble, enfin des choses comme ça qui nous permettent de comprendre notre environnement. Après, c'est la possibilité d'avoir des explorations. Aujourd'hui, vous avez des robots, par exemple, sur la planète Mars qui nous renseignent sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que demain, on pourra avoir des êtres humains qui aillent sur place? Bon, c'est le rêve d'Elon Musk.
Il aimait beaucoup. Tout à fait, j'allais parler des idées de voyage sur Mars de Elon Musk.
Oui, ben voilà.
Vous vous rejoignez finalement.
Oui, je pense que c'est pas tout à fait dans le même objectif. Mais enfin bon, ceci dit, voilà. Donc ça, si on n'est pas en train de réfléchir là-dessus, de se poser des questions là-dessus, on est à côté de la réalité. Notamment parce que je sais qu'il y a eu plusieurs alertes récemment sur les astéroïdes qui peuvent très bien, par exemple, s'écraser sur la Terre. Bon, on sait que c'est assez vu dans l'histoire de la Terre, hein. On pense que la grande extinction qui a eu lieu des dinosaures, elle a été causée, on pense que c'est ça, hein, par un astéroïde qui est tombé sur la planète Terre. Donc ça peut être utile à un certain moment de se poser la question, bon, bah, effectivement, si un astéroïde qui se dirige vers la planète, comment est-ce qu'on fait? Hein, est-ce qu'on attend qui nous tombe sur le coin de la tête et puis ciao bye bye, ou est-ce que on se dit, on met tous nos efforts en commun pour trouver une solution? Donc ce sont ces enjeux-là, et ça, ce sont des enjeux communs de l'humanité, et c'est un enjeu dans lequel la France normalement a tout pour figurer dans ces enjeux-là, faire entendre sa voix et avoir des choses intéressantes à dire. Et bon, je pense pas qu'on ait entièrement raté le coche, mais si on ne se réveille pas, il se peut qu'on le rate, en revanche.
Et sur le plan militaire, l'idée d'une défense européenne plus que nationale, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense que ça, c'est une lubie de Macron. que c'est une lubie de Macron, comme par exemple la...
Je serais pour un maintien de la souveraineté en matière de défense, hein, et de matériel et d'effectifs militaires.
Ben, je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle est une illustration parfaite de pourquoi c'est très dangereux. Parce que nous avons des pays européens qui sont en train, notamment la France, menée par l'Angleterre, hein, dont on se souvient quand même que Boris Johnson a fait tout ce qu'il fallait pour faire échouer en 2022, quand il y avait la possibilité d'arrêter donc le conflit en Ukraine. Boris Johnson s'est interposé et a fait en sorte que ça échoue. Donc la guerre a continué, il y a eu on parle de millions de victimes, je n'ai pas le chiffre précis, mais de toute façon il y a eu déjà trop de morts. Et donc aujourd'hui on voit bien que, à l'heure même où un Trump, avec toutes les limites de Trump, hein, soit dit en passant, mais est plutôt dans l'optique qu'il faut trouver une résolution et avoir la paix en Russie, on voit bien que ce sont les Européens, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est l'Allemagne en particulier, qui sont leaders dans cette volonté de réarmement et de provoquer la Russie. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Alors, ils disent que évidemment c'est la Russie qui ne veut pas. Ils viennent de faire une proposition d'ailleurs qui est une proposition dont il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Mais on voit bien que qu'il n'y a pas de recherche, qu'il n'y a pas de volonté de paix réelle. Et dans ce contexte-là, Macron vient de signer un traité avec la Pologne dans lequel visiblement. Il y a la possibilité, parce que c'est le grand rêve de Macron, de partager la dissuasion nucléaire. Et ça, c'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. Cette dissuasion nucléaire, on parle de nucléaire, hein, le nucléaire, c'est quelque chose, c'est une arme épouvantable. Hein. Donc si on a la possibilité que le bouton nucléaire français soit partagé, c'est inconcevable.
Genre, oui, on est d'accord là-dessus.
C'est inconcevable.
On est d'accord, mais ce n'est pas encore le cas.
Ah ben, disons que Macron essaye petit pas par petit pas d'aller dans cette direction. Et en réalité, à ce point-ci des choses, je ne sais pas si si on a beaucoup d'éléments qui nous renseignent sur le contenu de ce traité, mais en tout cas...
Vous parlez du traité d'Aix-la-Chapelle ?
Non, le traité qui vient d'être signé à Nancy avec la Pologne.
Ah, le traité avec la Pologne, oui. Je ne l'ai pas lu, le traité. Par contre, pour en revenir à ce que tu disais, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un représentant de l'Union européenne qui appuie sur le bouton ou que cette possibilité-là soit donnée de manière éparpillée à différentes nations représentées par un homme, dans tous les cas, c'est pas bon. De toute façon, on est d'accord. Hein. Quoi qu'il arrive, l'arme nucléaire, c'est jamais bon, quels que soient ceux qui ont le droit de l'actionner.
Ah bah, surtout que là, on parle de pays...
Parce que si c'était la France qui le faisait, ça ferait autant de dégâts que si c'était l'Europe. Donc,
oui.
Mais... on est bien d'accord ensemble. Hein. Dans l'ensemble, c'est jamais très bon. Quoi.
Oui, non mais on est bien d'accord. Mais la doctrine nucléaire française... elle est très explicite, c'est-à-dire c'est quand ça concerne la défense du territoire. Et il ne s'agit pas d'aller s'embringuer dans des histoires qui ne...
Dans des offensives contre des querelles tierces.
Contre des querelles tierces qui ne nous concernent pas. En réalité, il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que l'Ukraine, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Je ne dis pas que ça ne nous concerne pas d'une manière générale, bien sûr que ce qui se passe là-bas, c'est quelque chose, de grave. Mais ça ne remet pas en cause, ça ne concerne pas les intérêts fondamentaux de la France. Ils ne sont pas menacés par ce qui se passe en Ukraine. Donc être là en train de chercher à redonner un petit coup pour relancer la machine, non. Et surtout mettre dans l'arme nucléaire dans la balance, c'est de la folie furieuse.
D'accord. Très bien. Bon, au en ce moment, en fait, l'avenir de la dissuasion nucléaire est en train de se discuter. Les doctrines sont en train de se modifier imperceptiblement ou de manière très explicite, puisqu'il y a pas mal de revues qui sont consacrées à ce sujet-là, qui consacrent leur une à ce sujet-là, notamment certaines revues politiques et ou géopolitiques mensuelles. Si nos chers auditeurs s'intéressent à la question, je les invite à aller voir et à aller regarder également sur Internet. Il y a beaucoup de conférences qui d'ailleurs sont filmées et rediffusées sur Internet sur la question de la dissuasion nucléaire et de la doctrine française, européenne ou mondiale en la matière. Odile, on va bientôt devoir se quitter. On peut quitter et finir sur une petite touche de fantaisie, une petite anecdote croustillante et amusante, s'il te plaît.
Ah, ben oui, oui.
À nous raconter.
Oui. Alors là, cette campagne a été quand même assez tendue. La petite anecdote, moi, qui me revient en tête, je ne sais pas si elle est drôle, mais en tout cas, elle est assez illustrative de ce qu'a été cette campagne. C'est quand on avait une interview, je crois que c'était avec une journaliste de TF1, et il s'était produit un événement sur lequel on demandait à Jacques Cheminade de réagir sur le vif, et puis donc il avait réagi, et après donc il voulait ajouter d'autres propos pour la journaliste, mais de manière totalement privée. Et en fait, donc on était bien d'accord qu'il y avait une partie qui était pour être enregistrée et l'autre qui était tout simplement privée. Et donc moi j'étais présente et j'ai vu la journaliste qui était là. Alors il y a eu la partie où on a dit ok, bon, maintenant on c'est hors caméra, hors enregistrement, et je l'ai vu en train de rebrancher son magnétophone pour enregistrer ce qui était normalement devait être en off. Donc bon, voilà, ça donne une petite
D'accord. Après, ils gardent les bandes et ils les ressortent quand ils en ont besoin.
Évidemment.
Oui. D'accord. Ça, c'est le métier de journaliste. C'est tout un mystère. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, on va être obligés de vous laisser pour pas dépasser comme on le fait d'habitude. Autrement, Sidi va râler. Merci, Odile, en tout cas, de nous avoir donné ton expérience. Si tu éprouves le besoin d'en faire une deuxième parce que t'as pas pu tout dire, on le fera. Et je crois bien qu'on te retrouve la semaine prochaine pour une émission sur le plan Oasis. Ou une autre semaine. Voilà. Chers auditeurs, chers auditrices, merci de nous avoir écoutés.
Merci Noura, merci à vous.
À très bientôt et passez une excellente semaine sur, en n'oubliant pas d'écouter Radio Galère ainsi que les podcasts de Mets de Résistance.